nous débutons par le journal de Catherine Dutu, bien sûr. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il applique son programme de campagne. Donald Trump a décidé hier de sortir les États-Unis de l'accord nucléaire iranien. Les Européens se disent déterminés à le sauver. Confiance rompue, en revanche, de Téhéran à Pyongyang, vous l'entendrez.
Et après la décision américaine de rétablir les sanctions contre l'Iran, quelles conséquences pour les entreprises qui commercent avec Téhéran ? Eh bien, elles seront frappées au portefeuille, un dossier très sensible, nous dira Jean-Marc Chardon dans son billet économique à la fin de ce journal.
Auparavant, nous parlerons de la grève à la SNCF et des turbulences chez Air France, toujours en conflit salarial. La compagnie aérienne a à sa tête un PDG démissionnaire.
Et puis dans une quinzaine de minutes, eh bien, le cumul des mandats, le nombre de parlementaires, que prévoit la réforme constitutionnelle ? On posera la question à Marianne Coandet, constitutionnaliste.
Nous vous parlions de paix hier dans ce journal et de son équilibre précaire. C'est au nom de la paix que Donald Trump a justifié hier sa décision de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Le président américain a expliqué qu'il voulait empêcher Téhéran de se doter en secret de la bombe atomique, mais aussi de mettre un coup d'arrêt au soutien de groupes terroristes par l'Iran. Déchirer le texte signé sous l'administration Obama, c'était une promesse de campagne de Donald Trump qui annonce donc le rétablissement et le renforcement même des sanctions économiques contre l'Iran, sanctions qui avaient été levées en contrepartie de l'engagement pris par la République islamique de ne pas se doter de l'arme nucléaire. La correspondance à Washington de Grégory Phillips.
Dans la diplomatic room de la Maison-Blanche et après des semaines de négociations et de pression de la part de ses alliés européens pour qu'il reste dans l'accord, Donald Trump annonce ceci.
J'annonce aujourd'hui que les États-Unis vont se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien.
Le JPOSI, l'accord signé en 2015 par l'administration Obama, est mort et enterré. Trump précise que les sanctions économiques à l'égard du régime iranien sont rétablies. Puis le président américain, comme Benjamin Netanyahou il y a quelques jours à Tel Aviv, affirme que les Iraniens ont caché leur projet nucléaire à l'AIEA.
Aujourd'hui, nous avons la preuve que la promesse de l'Iran était un mensonge.
Trump contredit non seulement les inspecteurs de l'AIEA qui ont toujours conclu que les Iraniens respectaient l'accord, il contredit aussi ses propres services de renseignement. Alors pourquoi avoir pris cette décision ? L'explication tient en quelques mots.
Quand je fais des promesses, je les tiens.
Enfin, Donald Trump termine son allocution avec cette menace à l'égard du régime iranien.
Si le régime continue à s'entêter dans ce programme nucléaire, il rencontrera les plus gros problèmes qu'il n'a jamais connus.
En 11 minutes de discours, Trump vient de déchirer 21 mois de négociations acharnées entre l'Iran et les grandes puissances.
Et parmi les signataires de l'accord de 2015, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision américaine. C'est ce qu'ont déclaré dans un communiqué commun Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et la première ministre britannique Theresa May, qui s'étaient tous trois investis en vain donc pour tenter de convaincre Donald Trump de rester dans l'accord. Les trois dirigeants se disent désormais déterminés à assurer la mise en œuvre du texte en maintenant les bénéfices économiques au profit de la population iranienne. Les Européens ont gros à perdre sur le plan diplomatique mais aussi économique. Airbus, Renault ou Volkswagen, qui espéraient gagner de nouvelles parts de marché à Téhéran, devront examiner les risques de sanctions par le Trésor américain. Emmanuel Macron, qui s'était rendu à Washington fin avril, a lui relancé hier son projet de travailler collectivement à un accord plus large couvrant l'activité nucléaire, la période après 2025, les missiles balistiques de l'Iran ou encore la stabilité au Moyen-Orient. Mais en Iran, la confiance est rompue. Les experts défilent depuis hier soir sur les plateaux de télévision pour dénoncer, je cite, les mensonges de Donald Trump. Et ce matin, nous sommes à Téhéran avec notre envoyé spécial Franck Madvon. Franck, le retrait des États-Unis de l'accord de 2015 a naturellement été suivi de très près en Iran.
Oui, l'accord sur le nucléaire est ici bien sûr un sujet majeur. Les tensions avec l'Amérique de Trump sont au cœur des préoccupations et toutes les chaînes d'infos iraniennes consacrent depuis hier des éditions spéciales à cette actualité. Les autorités iraniennes ont très vite réagi, pas question pour elles de renégocier l'accord. Le président Rouhani a pris la parole juste après l'américain. Un discours télévisé d'une douzaine de minutes, derrière son pupitre, les yeux fixés sur la caméra. Hassan Rouhani s'en est d'abord pris à Donald Trump.
L'Amérique a officiellement déclaré ce soir qu'elle ne tenait pas compte de ses engagements internationaux. Avant cette annonce, M. Trump n'avait déjà pas respecté les engagements de son pays concernant le changement climatique et l'accord de Paris. Il est alors sorti de cet accord très important et très utile pour l'environnement. Donc, il y a des précédents.
Alors Hassan Rouhani se montre toutefois ouvert, il souhaite que l'Iran discute désormais avec les 5 autres pays signataires de l'accord. Pour le président iranien, si les intérêts de son peuple sont préservés, l'accord restera en vigueur, surtout ne pas céder face aux États-Unis.
Ce que Trump a fait, c'est une guerre psychologique et une pression économique. Nous ne laisserons pas Trump gagner cette guerre et cette bataille économique face au peuple iranien.
Mais Hassan Rouhani précise que des dispositions ont été prises pour enrichir à nouveau l'uranium à des taux plus importants et donc sortir de l'accord. En résumé, si ça se passe mal avec les autres pays signataires, l'Iran pourrait à son tour quitter la table.
Franck Madvon, envoyé spécial de France Culture à Téhéran. Et comment convaincre à présent la Corée du Nord de se dénucléariser quand les États-Unis déchirent l'accord signé avec l'Iran ? La tâche est compliquée ce matin pour le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui est arrivé à Pyongyang pour faire avancer le sommet prévu entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.
C'est un message plutôt étrange que vient d'envoyer Donald Trump à la Corée du Nord. En revenant sur leurs engagements vis-à-vis de l'Iran, les États-Unis montrent qu'ils ne sont pas un partenaire digne de confiance, souligne la majorité des observateurs qui estiment que les négociations de dénucléarisation, déjà délicates avec le régime nord-coréen, viennent soudainement de se compliquer davantage. La Corée du Sud n'a pas encore réagi officiellement et chez le voisin japonais, un porte-parole du gouvernement a déjà qualifié la décision américaine de très regrettable, une critique plutôt rare de la part de l'administration de Shinzo Abe. À Séoul, des analystes font cependant remarquer que Pyongyang n'a pas attendu l'annonce de Donald Trump pour se méfier des Américains. Les Nord-Coréens savent aussi que chaque élection en Corée du Sud ou aux États-Unis peut amener un nouveau président qui dénoncera les accords passés par ses prédécesseurs. C'est pourquoi le régime de Kim Jong-un demande une dénucléarisation par étapes, assortie de contreparties américaines synchronisées, alors que les États-Unis exigent, eux, un vaste accord qui soit d'un seul bloc. La visite surprise hier de Kim Jong-un en Chine et sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping s'expliquent sans doute dans ce contexte. Pyongyang cherche à assurer ses arrières en cas d'échec des pourparlers. Si les négociations nucléaires échouent, le régime aura beau jeu de dire qu'il a fait tout ce qu'il pouvait, mais qu'il est impossible de discuter avec l'administration Trump.
Frédéric Ojardias à Séoul pour France Culture. La décision américaine de se retirer de l'accord nucléaire qui a des répliques, on l'entendait, jusqu'en Asie. Et dans la tectonique des plaques diplomatiques, retour au Proche et au Moyen-Orient, le royaume sunnite d'Arabie Saoudite, grand rival régional de l'Iran chiite, salue la détermination de Donald Trump. L'enjeu pour Riyad, c'est de faire reculer l'influence de l'Iran au Yémen, au Liban et en Syrie. Et justement, la Syrie de Bachar al-Assad, allié de l'Iran, parle d'agression des États-Unis. Après ce retrait américain de l'accord de Vienne, Damas affirme sa totale solidarité avec Téhéran. En revanche, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, plus ferme soutien de Donald Trump dans ce dossier, soutient totalement cette décision courageuse des États-Unis. A rajouter encore au risque de tension dans la région, des missiles israéliens auraient tué au moins 9 combattants pro-régime en Syrie, tout près de la capitale, Damas, hier, des combattants iraniens. Israël ne fait pas de commentaires, on y revient dans le journal de 7h30.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Le premier volet de la réforme des institutions sera présenté ce matin en Conseil des ministres.
Il s'agit du volet constitutionnel qui prévoit notamment d'inscrire dans le texte fondamental la lutte contre le réchauffement climatique ou encore d'indiquer la spécificité de la Corse, suppression également de la Cour de justice de la République et de la nomination automatique des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel. On y revient juste après ce journal avec votre invité Guillaume Erner, la constitutionnaliste Marianne Coandé. C'est cet après-midi que doit être remis à Matignon le rapport sur la fiscalité locale, coécrit par le sénateur En Marche Alain Richard et le préfet Dominique Bure. Ils ont dû réfléchir à des évolutions sur 3 dossiers prioritaires. La maîtrise des dépenses locales, le financement et la gestion des allocations individuelles de solidarité, ainsi que la refonte de la fiscalité locale. Des évacuations sont en cours à Toulouse, à l'université des sciences humaines du Mirail à Toulouse, université qui était bloquée depuis le 6 mars par des étudiants opposés à la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur. Au 16e jour de la grève en pointillé des cheminots, la moitié des trains, toutes lignes confondues, devraient circuler aujourd'hui. Les syndicats se retrouvent cet après-midi au siège de la CGT à Montreuil pour discuter des suites à donner au mouvement avec un possible référendum interne des cheminots. Un autre référendum interne a eu lieu et résultat annoncé vendredi soir, c'était à Air France. Rejet du plan salarial de Jean-Marc Janaillac et depuis, une période de turbulence s'est ouverte dans la compagnie aérienne. La question préoccupe la ministre des Transports Elisabeth Borne, tout comme KLM, le partenaire néerlandais d'Air France. L'intersyndicale veut mettre fin à cette zone de turbulence rapidement. Elle souhaite revenir à la table des négociations, mais le PDG démissionnaire Jean-Marc Janaillac n'est pas encore parti officiellement. Bref, la direction n'est pas prête. Et même si l'État est actionnaire d'Air France, la compagnie reste privée et les syndicats préviennent, il faut arrêter l'interventionnisme gouvernemental. C'est ce qu'estime Éric Fallu, porte-parole du CNPNC.
On espère grandement que le nouveau PDG de la holding, puisque visiblement c'est là que tout se décide, impulsera une nouvelle politique sociale dans l'entreprise, parce que là, ça n'est plus possible d'avoir une politique systématiquement contre ses salariés. On est une entreprise privée, il n'y a pas de projet à moyen terme, ce sont que des projets à court terme pour faire du cash. Ça n'est pas possible. Il y a des gens qui doivent quand même continuer à se projeter dans l'avenir. Et c'est d'ailleurs un petit peu le problème qui se pose aujourd'hui dans les grosses entreprises françaises. Air France n'appartient pas à l'État français, mais l'État français le gère comme si ça lui appartenait. C'est quand même une vraie problématique, c'est-à-dire que on est sur un jeu de chaise musicale où chaque PDG tantôt démissionne de telle entreprise pour aller dans telle autre. Bon, finalement, dans la shortlist, ça sera un nom qui sans doute sera un nom archi connu de tout un chacun. Et c'est peut-être effectivement une vraie problématique. On ne s'improvise pas PDG d'un grand acteur de l'aérien mondial, même si on a été performant dans l'uranium ou à EDF. En tout cas, c'est une industrie trop spécifique et il serait temps enfin qu'à la tête de ce type d'industrie, on ait des patrons qui connaissent parfaitement le sujet.
Éric Fallu, porte-parole du SNPNC, syndicat d'hôtesses et de stewards. Il répondait à Hakim Kasmi, l'avenir d'Air France, de la SNCF. On en reparle à partir de 7h40 avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, invité des matins de France Culture.